À la une de l'actualité ce mercredi, c'est cet éboulement à la Presqu'île et le Fénois qui retient son souffle pendant que les secours recherchent des survivants dans deux maisons détruites. On parlera aussi d'efforts pour le handicap, d'un conseil des hommes bienveillants et de carbone bleu, ce sera en fin d'édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et donc Charlie, on commence par ce terrible éboulement survenu cette nuit à Afa, Haïti.
Et oui, un éboulement de falaise impressionnant sur 200 mètres de large et 30 mètres de hauteur au-dessus d'un quartier d'habitation et qui a résonné comme un avion qui s'écrasait juste avant le lever du jour, comme l'expliquent les riverains. Une maison a été emportée par le flot de terre, elle s'est écrasée sur une autre dont le toit sort tout juste des décombres. L'alerte a été donnée à 5h50. Une cellule de crise du Haut-Commissariat a été mise en place à 6h. Les pompiers de Taïa puis d'autres communes de la Presqu'île et jusqu'à Pierret ont commencé à affluer dans les heures suivantes, suivies d'équipes et de matériel spécialisé, emmenés par la route ou par hélicoptère. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est bien sûr celle des victimes. Aucun corps, aucun survivant n'a été retrouvé dans les gravats pour l'instant, mais l'état civil indique que les deux maisons accueillaient 9 habitants, 9 personnes qui sont donc recherchées, comme l'indique le haut-commissaire Alexandre Auchat.
Ça ne veut pas dire qu'elles sont disparues, ça ne veut pas dire que pour l'instant on sait si elles sont là, on est en train de les rechercher à l'extérieur et aussi évidemment à l'intérieur de cette... Vu la configuration du terrain, la mobilité du terrain, vous avez vu qu'il y a eu des éboulements depuis ce matin. Rien n'est stable, ça va prendre énormément de temps. Parce qu'il y en va de la sécurité évidemment de ceux qui interviennent, mais aussi de la sécurité potentiellement des gens qui sont à l'intérieur. On est susceptible d'avoir une opération qui va durer 24 heures, 48 heures, voire même plus loin. Si c'est nécessaire.
Voilà des recherches qui pourraient durer, vous l'avez entendu, du fait de l'instabilité du terrain. Lucie Rabréau, vous êtes en direct du PK 3,8 à Afa, Haïti. Et cette instabilité, ce risque dont parlait le haut commissaire, il est bien visible sur place.
Et oui, Charlie, et bien effectivement, parce qu'on a pu voir un éboulement vers 11h. D'abord quelques poussières au départ, et puis c'est vraiment un gros morceau qui part. Alors les gens ici et la presse, on était tous, bien sûr, en zone sécurisée, au bout de la servitude. Mais certains ont crié, on voyait les dragues juste en dessous. C'était vraiment très impressionnant. Une vidéo est d'ailleurs sur notre page Facebook. On a entendu les talkies, évacuation immédiate. Et puis des véhicules sont partis. Deux gendarmes sont ensuite partis, toutes sirènes hurlantes, pour évacuer au-dessus, où on devine aussi qu'il y a quelques maisons. Le quartier ici en bas avait été évacué dès ce matin. On a pu voir un drone aussi survoler la zone et depuis quelques minutes, c'était l'hélicoptère aussi Dauphin qui était sur place. Alors ce matin, on nous a tout de suite effectivement expliqué en arrivant que les opérations allaient prendre du temps, le terrain est instable. À 11h, c'était la troisième réplique. Un chauffeur de drague nous a raconté, il était dessous à cette troisième réplique. Il a vu la terre glisser, a-t-il eu peur ? Bien sûr, il dit que les risques sont effectivement importants. La montagne est imbibée d'eau. Il dit que ça pourrait être pire. Et d'ailleurs, les autorités ont pris leur disposition. On écoute tout de suite le chef du SAMU, le docteur Bertrand Remaudière.
Il y a eu un glissement de terrain secondaire très très important avec des gros volumes de terre. On a eu beaucoup de chance. On a pu sortir toutes les équipes d'intervention. L'ensemble des intervenants qui étaient dans les décombres ont pu être sortis et extraits. Là, à l'heure actuelle, on se réorganise, on se recule. On s'était mis au plus près pour pouvoir intervenir vite. On se met en zone sécurisée. On est en train de remonter le poste de commandement, le poste médical avancé, les moyens de gendarmerie. On les remonte jusqu'au TMR, un endroit où on pourra travailler en étant de façon sécurisée.
Voilà, c'était les toutes dernières informations sur place. On a pu voir il y a quelques minutes beaucoup de camions de l'armée avec des militaires où effectivement, bon, sur place, Charlie, la situation est effectivement très tendue.
Voilà, et 12 maisons ont été évacuées ce matin, comme vous le disiez. Une trentaine de personnes au total qui ont été prises en charge par les services du pays. C'est Moetei Brotherson, lui aussi, sur place à Haïti, qui l'explique toujours au micro de Lucie Rabréau.
L'ensemble des personnes qui ont été évacuées sont actuellement prises en charge à la fois par la commune, par la DSFE et donc par les services du pays. Ils sont regroupés sous une infrastructure de l'IJSPF qui n'est pas loin d'ici. Ils seront le temps des opérations relogées en urgence dans des logements OPH qui ont été identifiés, aussi bien dans le nouveau lotissement de la Dorsale que dans lotissement qui est à Tautira. Donc on n'a pas d'inquiétude là-dessus.
Voilà le président du pays qui n'avait en milieu de matinée ce mercredi pas de précision à communiquer sur l'identité ou l'âge des personnes recherchées, ni sur les raisons de l'accident. De ce côté-là aussi, les investigations sont déjà lancées.
Là, il faudra étudier les choses plus précisément. On a contacté à la fois le labo TP et le laboratoire de géophysique de l'université pour éventuellement dépêcher des experts en géologie et en hydrologie pour qu'on puisse faire une étude du terrain et avoir plus d'explications. Mais à ce stade-là, c'est difficile de se prononcer.
Voilà, et à noter que le pays a aussi déclenché une cellule de prise en charge psychologique pour les riverains qui ont connu, je cite, un réveil apocalyptique à Fahiti. On vous tiendra bien sûr au courant de la situation sur place, sur nos ondes, sur radio1.pf et puis sur notre page Facebook.
Et sans transition, on parle maintenant de transport public avec cette galère quotidienne pour les personnes à mobilité réduite.
Oui, une galère qui n'était un mystère pour personne, mais qui a été confirmée par une étude du gouvernement. Sur plus de 300 arrêts de bus de Tahiti contrôlés, aucun n'est totalement accessible au PMR. 10% seulement de la flotte du Télé-Tahiti est équipée de rampes. Bref, les transports en commun tahitiens excluent encore les personnes à mobilité réduite. Et ce n'est pas fini, les trottoirs sont trop étroits, il y a même des obstacles, la signalisation est insuffisante et les normes ne sont pas connues. Souvent des professionnels. Le pays compte bien changer tout ça. Un grand schéma d'accessibilité a été présenté hier. 9 orientations et 12 actions. Près de 480 millions de francs pour la première phase. On écoute la déléguée interministérielle au handicap Nathalie Salmon-Hundry qui assure que ce schéma n'est pas un effet d'annonce.
Plus personne ne pourra dire on ne sait pas, on ne sait pas faire ou c'est pas important. Aujourd'hui, cette liberté que l'on donne désormais aux personnes PMR de sortir de chez elles et de vivre.
Voilà, des véhicules équipés de rampes arrivent aussi. Plusieurs arrêts de bus vont être réaménagés. Une charte diffusée aux professionnels. Des formations vont être données aux architectes et aux maîtres d'œuvre. Des campagnes de sensibilisation vont être préparées. Des sanctions appliquées aussi à terme pour ceux qui ne respecteraient pas les nouvelles règles. Et d'ici 2027, un service public du transport à la demande sera offert au PMR. Les précisions du ministre des Grands Travaux, Jordi Chan.
Le trajet entre la route de ceinture et le lieu de résidence est souvent le plus difficile à offrir en termes de services publics. Parce que nos bus ne sont pas forcément adaptés ou alors parce qu'il y a très peu de personnes qui sont acheminées vers ces quartiers. Et l'idée, c'est que ce service de transport à la demande puisse soit mouvoir ces personnes directement jusqu'au lieu d'intérêt de ces derniers, soit les déplacer jusqu'à un point de connexion, un arrêt de bus par exemple.
Voilà, c'était le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, donc, qui compte déléguer donc, ce service de transport à personnes spécial PMR à une société privée, soit sous la forme de concession, soit sous une forme d'affermage. Quoi qu'il arrive, 6 navettes PMR devraient être mises en service d'ici 2027.
On parle maintenant d'une stratégie carbone bleu pour le Fénois et le Pacifique. Et
oui, le carbone bleu, c'est le gaz carbonique qui est capturé et stocké par les écosystèmes marins et qui fait l'objet d'un séminaire scientifique, la semaine dernière à Moréa, à l'invitation du CRIOB, de l'Université de Berkeley ou bien de l'UPF. Des experts mondiaux qui ont parlé donc des capacités de capture des océans qui sont, grâce à la faune marine notamment, 4 à 10 fois supérieures de celles des forêts. C'est ce qu'explique l'anthropologue polynésien et directeur de recherche au CNRS, Tamatoa Bambri.
Vous allez à la dernière page du rapport d'activité des plus grandes compagnies d'information mondiale, c'est-à-dire Meta, Google et autres.
Il y a un bilan carbone à chaque
fois.
Vous
avez forcément un bilan carbone à la fin et vous avez les actions de compensation carbone qui prennent. Et l'idée, c'est de...
Voilà, Tamatoa Bambridge, hein, qu'on va écouter sur Google tout à l'heure, mais qui d'avant tout nous parlait de cette faune pélagique qui peut représenter d'importantes capacités de stockage de carbone. Écoutez.
C'est le pendant océanique. Pour donner un exemple, un chêne en 500 ans dans une forêt va séquestrer environ 12 tonnes de carbone en 500 ans. Une baleine en 60 années de vie va séquestrer 36 tonnes. On estime même que si on n'avait pas tué 10 millions de baleines depuis le 19e siècle, on serait en dessous de l'objectif des 1,5 d'augmentation, même si c'est controversé.
Voilà, Tamatoa Bambridge qui, avec un groupe d'experts régionaux, veut donc revaloriser cette séquestration carbone des milieux océaniques dans les recherches et surtout dans les traités internationaux. Il faut plus mesurer ce carbone bleu, mieux le caractériser et surtout attirer du financement pour les projets qui le préservent. Et des projets, il y en a. Aquaculture, agoculture, Raoui, corridors et sanctuaires internationaux pour l'immigration de baleines ou encore soutien aux pratiques agricoles ancestrales comme les taraudières qui protègent les lagons qui sont en dessous. Ce groupe d'experts avec Tamatoa Bambridge mise donc sur la création d'un fonds carbone bleu, alimenté dans un premier temps par des financements publics et à terme par des entreprises qui voudraient compenser leurs propres émissions.
Vous allez à la dernière page du rapport d'activité des plus grandes compagnies d'information mondiale, c'est-à-dire Meta, Google et autres.
Il y a un bilan carbone à chaque fois.
Vous avez forcément un bilan carbone à la fin et vous avez les actions de compensation carbone qui prennent. Et l'idée, c'est de dire, mais l'Océanie, elle a quand même un avantage comparatif mondial, c'est ses océans et on y est attaché de manière identitaire et culturelle, mais surtout, cet océan, elle a aussi une valeur économique pour certains et le marché du carbone peut être intéressant pour cela.
Voilà, et avant d'en arriver là, il faudra bien sûr développer les outils de mesure et des certifications des quantités de carbone que chaque projet pourra stocker et donc compenser. Une réflexion sur une fédération des territoires et sociétés d'Océanie a aussi été lancée, une fédération qui pourrait s'appeler Océan.
OCEA n'a pas vocation à gérer ce fonds carbone. OCEA a plutôt vocation à être destinataire de ces fonds, un peu sous la forme du label bio pour l'agriculture, c'est-à-dire sous la forme d'une gestion participative, à vérifier la robustesse des actions en faveur de la biodiversité, en faveur de la séquestration carbone et aussi en faveur des populations locales. OCEA est plutôt destinataire du fonds carbone et est responsable de la coordination de la mise en œuvre de ces actions-là.
Voilà, tous les détails sur ce projet de stratégie carbone bleue et l'interview complète de Tamato Abombridge sont à retrouver sur notre site radio1.pf.
Et on termine avec le Oura Tapeiro qui commence ce soir.
Et oui, plus de 40 formations sont en compétition cette année. D'abord dans deux catégories majeures, Tapeiro et Mehura, mais il y a aussi des catégories facultatives comme le Ori Tahito, une danse inspirée des années 40-60 en solo. Et cette année, édition record du Tapeiro Manihini avec 14 groupes en compétition international, dont là pour la première fois un de La Réunion et deux de Métropole. Pour les groupes locaux, la finale est prévue le samedi 6 décembre. Ça commence donc ce soir à 18h et ça continuera demain soir et vendredi soir à la même heure au Grand Théâtre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'information principale avec cet éboulement qui a eu à Fahiti et dont vous pouvez suivre les développements sur notre site radio1.pf et sur notre page Facebook. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio 1 FM, c'est à 16h pour le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Charlie René pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.